Me ferviu.
Para perguntas, elas podem ser feitas em português, que a Maria Júlia entende português.
Italiano.
Depois de tudo, minha pressão. C'est quelque chose qui passe par la tête. Je n'y ai pas réfléchi du tout. C'est peut-être. Tu me diras si pour ça, pourquoi pas, si ça peut ressembler à quelque chose ou pas. À mesure que je t'écoutais parler, je me demandais, en pensant à ces partages des problématiques entre le niveau, parce que tu disais. D'après Fontani, j'ai pris note. Faudrait donc s'intéresser au caractère matériel du support plus le geste d'inscription. Bien. Caractère matériel du support et le geste d'inscription. Ce qui est une différence évidemment par rapport à ce que faisait Jean-Marie Cloche, par exemple. Si on se rapporte à ce célèbre modèle proposé par Umberto Eco dans plusieurs de ses publications à partir de l'acronyme FABLE au sujet des trois grandes modalités d'intentionnalité, l'intentionnalité qu'il appelait Intentio Lectoris, Intentio Operis, Intentio Auctoris. Eh bien, le geste d'inscription, d'après toi, est-ce qu'on pourrait le situer plutôt du côté Intentio Operis, plutôt du côté Intentio Auctoris, ou bien ni l'une ni l'autre?
Alors, je veux exclure l'intentio autoris, bien sûr, parce que finalement, ce développement, disons, de la sémiotique vers les gestes, si on veut le dire comme ça, ce n'est pas un développement qui veut trahir l'idée, non seulement sémiotique, mais partagé par d'autres approches, que l'œuvre est indépendante de toute intention. Donc, on exclut bien sûr tout de suite l'intentio autoris. C'est toujours l'œuvre, c'est toujours l'intentio operis qui est au centre. Qu'est-ce qu'on y gagne si on pense au geste? On y gagne qu'on comprend que les formes ne sont pas des formes statiques, mais qu'il s'agit, je parle surtout pour l'art, hein, parce que c'est l'art qui a intéressé le premier sémioticien, qui a intéressé moi-même aussi, et qui, à mon avis, lance les défis les plus importants pour le renouvellement de la sémiotique. Les autres types d'images sont très intéressantes aussi, mais moins du point de vue support à port, gestes, etc. On y gagne l'effet qu'enfin on reconnaît que les formes sont des forces. Et c'est ce qui a aussi intéressé les sémioticiens, reconnaître que d'une certaine manière, que les formes ne sont pas quelque chose de déjà là, mais qui sont toujours en train de se refaire. J'ai dit, toujours de manière très périphérique, disons, toujours au passage, du point de vue du processus, du point de vue de l'émergence des formes, parce que l'intérêt, ce serait de reconstruire quand même un processus de la production. Non pas reconstruire l'acte de la production, bien sûr, mais reconstruire un modèle, un simulacre, qui nous met quand même. Parce que l'art nous met quand même toujours en présence de quelque chose qui n'est pas là, de manière stable. C'est toujours un appel et c'est toujours une révélation d'une certaine manière. Je sais que j'utilise des mots un peu pas très technique, hein, mais il faut pouvoir rendre compte de comment la matière dans l'art nous parle. Alors, pour cela, pourquoi j'ai voulu citer cette phrase de Fontani qui dit « La couleur s'étale, recouvre, déborde, les traces cernent, arrêtent, entourent, circonscrivent. » Bien sûr, on n'est pas en train, l'œuvre n'est pas en train d'être faite quand on est en train de la regarder, mais elle doit nous faire communiquer avec un acte, bien sûr impersonnel, que c'est un acte qui peut être décrit à travers ces apports, écriture, support formel, et support matériel, et support formel et support matériel, je les mets ensemble, disons, et action du geste. Parce que c'est seulement comme ça qu'on peut rendre compte, effectivement, de la complexité des images. Une complexité qui n'est pas là si on travaille sur des schématisations, si on travaille sur les schématisations offertes par l'image superficiellement. L'effet que, par exemple, j'ai pris Floch, non seulement parce que l'analyse de Tourleman est une des meilleures analyses qu'on a eues, hein, je crois, dans les années 80, une des premières et une des meilleures pour apprendre la peinture comme langage disjoint. Alors, bien sûr, il a fait déjà beaucoup de choses. Alors, le semi-symbolisme est déjà allé beaucoup plus loin que l'analyse banale de la sémiologie bartésienne ou de toute analyse qui travaille par signes disjoints. On est déjà passé des signes disjoints aux relations, mais les relations, ce sont toujours des relations superficielles, c'est-à-dire ce sont les relations de la forme. Et la forme, ces relations, mettons, géométriques, comme dans certains cas, comme dans certains tableaux de clés, ne veulent rien dire, ne sont rien plus qu'un schéma, un schéma qu'on peut retrouver même dans la publicité, dans le graphisme, si on ne les met pas en signification avec, par exemple, dans le cas des clés, les tissus qui supportent ces couleurs et ces formes géométriques. Alors, comment étudier la texture du tissu, par exemple, ou d'autres types de matérialité qui font les formes, effectivement. Parce que, quelles sont les formes chez Van Gogh, par exemple, si ce n'est pas une question de ce n'est pas une question de monstration, hein, de l'acte. Pas toutes les peintures fonctionnent de la même manière. Il y a des peintures qui peuvent fonctionner sans le recours à l'explication des forces, disons. Bien sûr, pensons à Mondrian, pensons à beaucoup d'autres qui n'ont pas besoin de ça, bien sûr, qui ne demandent pas ça. Mais la plupart, effectivement, du jeu de l'art, c'est un jeu qui concerne la formation de la matière, disons comme ça, pour le dire de manière très... Mais c'est comme ça aussi dans l'image scientifique, d'une certaine manière. Il s'agit toujours de comment domestiquer à travers des points de vue, des formes, des zooms, etc., etc., quelque chose qui déborde. Mais c'est tout simplement une manière très différente de le faire et de gérer les processus là aussi, que c'est les forces là aussi, que ce sont des processus bien sûr différents.
C'est donc un épaississement en amont. Si tu, je ne sais pas ce que tu veux dire, on dirait un épaississement en amont. Si tu vois du temps, on reste dans l'exemple de peinture, t'as le tableau, tu fais un épaississement en amont, tu fais, enfin, quand on y pense, quand on pense à un geste de construction par exemple, à la trace d'un geste,
oui,
ça épaissit en amont l'approche.
Si.
Quel serait l'épaississement envisageable en aval?
Oui, mais justement, ce ne sont pas véritablement déconnectés. Parce que c'est seulement l'observation qui active ces parcours de production, d'une certaine manière. Tu vois, ce n'est pas vouloir expliquer la production. La production, on ne doit pas explorer la vérité de la production. La sémiotique reste la science du mensonge, bien sûr, et du simulacre. Rassurons-nous. Mais il faut pouvoir rendre compte aussi d'une observation simulacrale qui soit plus fine de l'observation simulacrale dont on a rendu compte jusqu'à maintenant avec les outils de l'énonciation, par exemple, de l'étude de l'énonciation énoncée. Fontani parle beaucoup de ça dans Soma et Sema. Il parle d'une mémoire de l'acte, il parle d'une mémoire de la syntaxe, etc. Il ne s'agit jamais de la reconstruction, hein, de la vérité de, mais de comment cette construction est stratifiée. Il s'agit de penser l'image comme stratifiée, tout simplement. Hein? Non pas simplement comme le résultat d'une action qui nous sera toujours inaccessible, bien sûr.
Je pense que vous êtes d'accord. C'est-à-dire, on s'en tient à la recherche, toujours à la recherche du comment, plutôt que du pourquoi.
Si.
Vous êtes d'accord?
Si. Si, absolument. Mais le pourquoi vient après, c'est-à-dire, j'essaie depuis longtemps, même depuis la sémiotique de la photographie, de construire aussi une typologie des statuts de l'image. Alors, si on veut faire une typologie des statuts de l'image, le pourquoi devient important. Et devient important aussi si on travaille, par exemple, on s'en est rendu compte très bien, très facilement, immédiatement, quand on a travaillé, vous le savez, pendant 3 ans, tous ensemble, au sein de l'ANR et d'IVIS, avec Anne, Jacques, Jean-François Bordron, les Liégeois, les Italiens, etc., etc. On s'est rendu compte tout de suite que l'horizon d'une image vient même avant la textualité image, hein? Horizon, raison, but, objectif, on peut l'appeler comme on veut, et on a essayé de rendre compte de cette complexité, du fait que l'image, si on la considère isolée comme texte figé pour toujours, sans l'ancrer d'un côté dans les supports, etc., etc., et de l'autre côté dans les institutions, pour le dire banalement, parce que finalement, qu'est-ce que ce sont les statuts? Les statuts, ce sont les régimes, les économies de José-Marie Monzin, théorisé par Marie-José Monzin, qui effectivement affirme que l'image ne peut être comprise qu'à l'intérieur d'une économie, à l'intérieur d'un système symbolique qui la positionne par rapport aux autres images de son groupe, entre guillemets, et par rapport aux valeurs propres à l'institution. Quelles sont les institutions? Ce sont les musées, ce sont les librairies, ce sont les expositions différentes, ce sont tous les lieux où on gère la signification de l'image, on l'échange, on la fait circuler, etc., etc. Effectivement, c'est l'idée aussi de François Rastier, de la stratification d'un texte par rapport à des genres, par rapport à des discours, par rapport à des situations et par rapport à des institutions qui les accueillent et qui les rendent intelligibles, effectivement. Parce que les statuts, qu'est-ce qu'il fait? Rend intelligible. C'est simplement une clé de lecture, c'est simplement un lieu où on positionne une image par rapport aux autres. Alors, si on se met de ce point de vue-là, c'est le pourquoi aussi qui compte. Je ne veux pas dire que l'image produite dans la science rimarra pour toujours dans la science et sera toujours comprise avec le pourquoi de la science. L'intérêt, mais c'est un travail fou, qui est, à mon avis, presque impossible à accomplir, de toute manière impossible pour moi, suivre, faire de la biographie des images, c'est-à-dire voir comment une image part d'un statut et produite à l'intérieur d'un cadre de valeurs qui peuvent la rendre intelligible et change de cadre. C'est le cas dans les images de reportage qui deviennent des images d'archives pour les scientifiques, par exemple, qui deviennent donc des documents visant, ou qui peuvent devenir des images artistiques, etc., etc. Et là, ça se complexifie beaucoup par rapport au schéma de Fontani aussi, parce que les formes de vie, finalement, ne prennent aucunement en compte les institutions. Les stratégies sont très vagues par rapport à sont décrites comme très vagues par rapport à l'ajustement des pratiques dans le temps et dans l'espace. Il faut bien sûr un ancrage dans les institutions et à l'intérieur des institutions, des lieux des institutions. Ça, c'est un travail à faire titanesque. Rastier ne le fait pas non plus avec les textes verbaux. Il faudrait suivre des traditions et on sait bien qu'on n'est pas non plus très bien capable de faire de l'analyse diachronique. Je n'ai pas dit trop de méchanceté. Je le disais, c'était un exemple très général, parce qu'il faudrait savoir décrire la gestualité à partir de chaque tableau, bien sûr. Normalement, la peinture, non seulement la gouache de Matisse, mais la peinture plus en général, dépend effectivement d'un travail de l'œil et de la main, bien sûr, qui est récursif, itératif. Tandis que avec la photographie, l'acte n'est pas forcément interactif, mais relève de l'unicité, de la fermeture, ouverture de l'obturateur. Mais bien sûr qu'on peut construire de l'itérativité aussi en photographie. Par exemple, à travers des superpositions, j'ai des exemples de Jules-Étienne Marais, que j'avais travaillé, mais maintenant je ne sais même plus le retrouver, à vrai dire, qui montre que d'une certaine manière, la photographie peut fonctionner comme la peinture. Mais je vais vous dire, dans mon livre sur la sémiotique de la photographie, je ne vais pas me répéter à chaque fois, je me suis beaucoup pour essayer de reconstruire une théorie de la photographie qui ne soit pas ni indifférente à la technique, comme c'est le cas de Floch, ni technologique, comme c'est le cas finalement de Barthes et de Peirce. Je ne veux pas dire qu'ils sont des théoriciens de la technologie, mais je veux dire qu'ils lisent les différents supports à travers une essentialité, des caractéristiques essentielles qui ne rendent pas compte de la diversité des textes et qui sont et qui ne relèvent que de l'acte productif. Alors, bien sûr qu'on ne va pas faire ça, nous. On ne va pas passer par Floch et puis revenir au technologisme ordinaire, brutal de ces gens-là. Non, mais il faut trouver des voies médianes. Je pense que Fontani, d'une certaine manière, l'a fait dans son livre sur l'empreinte, c'est-à-dire Soma et Sema. L'a fait parce que il s'est bien sûr, il a bien sûr refusé l'idée qu'il y a une perception décidée, déterminée par la technologie. Il a montré qu'il y a des privilèges, il y a des gestes privilégiés, comme par exemple la récursivité en peinture, l'unicité de l'empreinte en photographie, bien sûr, mais qu'on peut voir la transposition de ces syntaxes d'un médium à l'autre. Ce n'est plus la transposition, l'invariante de la forme. Et ça, c'est vieux. C'est Floch des années 80. Mais une transposition d'empreintes, des types d'empreintes, des syntaxes. Alors, l'exemple que je voulais vous donner, mais ici je ne suis pas connectée. Maintenant, j'ai compris pourquoi ça ne s'affiche pas. Je ne suis pas connectée, mais je ne sais pas effectivement retrouver dans les chaos. Vous voyez ici tout un. Les images des de Jules-Étienne Marais qui montrent effectivement un étalement, si on veut utiliser le terme de la peinture, un étalement d'empreintes. Là, c'est une photographie qui utilise la récursivité qui est typique de la peinture. Fontani affirme par exemple, mais ce sont toujours des phrases très rapides sur la peinture, la photographie, parce qu'il ne s'en occupe pas du tout. C'est moi que j'ai essayé dans la sémiotique de la photographie de développer ça. De toute manière, il dit, bon, oui, la peinture est surtout sensorimotricité et la photographie c'est plutôt l'empreinte de lumière. Mais on voit par exemple qu'on peut construire un effet de sensorimotricité en photographie. Les bougies par exemple, l'effet flou. Et on peut construire des effets d'empreinte en peinture, évidemment, hein, en faisant oublier les supports totalement, en construisant des fausses transparences qui nous font penser à la transparence et par exemple à la luminosité du papier photographique, etc., etc. Donc c'est ça l'intérêt, c'est pas de repérer des spécificités, mais de voir comment les syntaxes spécifiques peuvent se transposer sur d'autres supports. Comment les supports vont au-delà d'eux-mêmes, hein? Aussi. Par exemple, il y a de la peinture, on l'avait vu au cours avec Thiago et les autres, il y a une peinture qui fait semblant d'être de la photographie, pardon, c'est de la photographie, oui, de la peinture qui fait semblant d'être de la photographie, mais cette photographie-là, elle n'aimait pas seulement, elle n'essaie pas seulement de simuler, non, si je ne regarde pas, n'essaie pas seulement de simuler les bougies photographiques, peinture, etc., mais aussi la matérialité un peu usée de la photographie. Je me réfère à une image très célèbre, l'oncle Rudy, oncle Rudy, de oh là 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 là. Oh là là. Thiago, tu te rappelles, non? Bon, c'est un artiste très 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 célèbre allemand. Oh là là. Bon. Je devrais maintenant me mettre à chercher dans l'ordinateur, je ne peux pas. Bon, lui, il construit une fausse photographie des familles de cet angle roudi en peinture, où on voit très clairement qu'il y a la tentative de construire le bouger et aussi la matérialité, de représenter la matérialité typique des photos de famille, hein, qui sont forcément un peu usées, manipulées, avec des coins mâchés. C'est la description de la photo de famille de Barthes aussi, hein, de cette, cette couleur sépia qui montre la patine, etc. Donc non seulement la photographie peut faire semblant d'être une photographie avec son bouger, etc., mais elle peut aussi faire semblant d'être l'objet même de la photographie, c'est-à-dire l'objet photographie, avec ses pratiques déposées en tant que patine sur son support.
Donc, si je peux faire une réflexion qui n'est pas pertinente, tout à fait, pas 100% pertinente, mais je pense que ton travail est évidemment clairement, 100% clair sur le visuel, photo, œuvre d'art, visuel comme tu l'as montré. Mais je me demande, quand on prend la poésie concrète, par exemple, celle qui utilise des couleurs comme partie intégrante, ça devient pour moi, ça me semble plus difficile de la considérer comme allographie ou photographie. Comme par contre, si on pense au poète qui a écrit ça de sa main, évidemment c'est une autographie. Tout de suite. Mais si on pense aux copistes du Moyen-Âge qui copiaient des livres à la main parce qu'il n'y avait pas d'imprimante, ces livres sont des allographies qui sont des autographies aussi. Donc,
absolument, absolument.
Je me perds là-dedans, c'est ça.
Oui, oui, non, mais je tiens à dire que pour moi cette opposition est très, très, très importante. Oui. Et qui nous aide à comprendre beaucoup de choses de la manière différente dont les différents arts se composent. Par exemple, une des questions les plus importantes, c'est où est l'œuvre en musique? C'est la notation, c'est la pensée, c'est la notation, c'est la pensée du compositeur, c'est l'exécution, etc. Tandis que dans l'autographie, on a toujours un seul objet, on peut dire l'œuvre c'est ça. C'est le même problème avec la littérature, quand les personnages deviennent aussi des personnages de théâtre, etc., etc. Alors, où est l'œuvre? Mais j'arrive à te répondre. Donc, je pense que c'est une distinction très précieuse pour se positionner. C'est clair que c'est une opposition qui ne rend pas compte de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'objets culturels, même à l'intérieur de la musique, parce qu'on sait bien que la notation avec les signes disjoints, où chaque signe a une valeur précise sur la... Là, j'oublie toujours le nom de la...
Ah,
oh, bravo. Tu sais que mes étudiants aussi me l'ont dit au cours cette année. C'est un mot que je n'arrive pas à retenir. Bon, la portée. Aujourd'hui, effectivement, c'est rare de retrouver des partitions de ce genre. Il y a de plus en plus des partitions picturales, presque autographiques, dont la correctness n'est pas est difficile à trancher, parce qu'il n'y a plus une identité orthographique qui compte. Alors, déjà dans la musique qui est prise comme l'art exemplaire de cette fonctionnement holographique, déjà il y a plein de problèmes. Avec la littérature aussi, et Goodman reprend aussi l'exemple, là aussi ça me, je n'arrive plus à retenir, Pierre Ménard qui refait les Quichottes. Alors, les Quichottes refait par Pierre Ménard est le même, en termes d'identité orthographique, le même. Mais publié 100 ans après, 200 ans après, 300 ans après, c'est une autre œuvre ou pas? C'est comme si c'était une exécution, mais une exécution tellement correcte, mais tellement, c'est l'œuvre, mais correcte, mais tellement différente que est-ce que c'est un objet nouveau ou c'est la même œuvre? Alors, le problème se pose aussi avec l'architecture et avec la photographie, d'autant plus avec tes exemples. Ce n'est pas les manuscrits, bien sûr, mais ce n'est pas non plus que le support ne compte pas, que la couleur choisie ne compte pas, etc. Alors, je n'ai pas pensé à cet exemple précis, mais j'ai pensé beaucoup à la photographie. Et la photographie aussi est très hybride, parce que c'est vrai qu'elle est reproductible. Donc, il n'y a pas la question de la, de la peinture comme toile tracée par un acte irrépétable, parce que c'est l'acte de la main qui ne peut pas être répété, même... Et même certaines œuvres du même artiste qui s'est copié lui-même ont été considérées comme des faux parce qu'on ne pouvait pas retracer l'histoire de la production comme liée à une pensée primitive, primaire, originale. Ça. Bon. La photographie, alors, est reproduction, donc d'une certaine manière on pourrait dire le négatif est une partition comme en musique, et les exécutions sont les tirages. Mais bien sûr, on se rend compte que le négatif ne fonctionne pas comme une partition en musique classique parce qu'il n'y a pas de signe disjoint. Il n'y a pas à chaque valeur, il n'y a pas de relation figée entre un signe et une valeur, par exemple la valeur dans le cas de la musique, la valeur des timbres, etc. Alors, comment positionner la photographie? D'une certaine manière, le négatif est un original parce que le positionnement du corps du photographe, c'est quelque chose d'unique, comme dans les cas de la trace, de la peinture, qui ne peut pas se répéter, parce que ce n'est pas possible de répéter la même position, avec la même lumière, la même disposition des objets, etc. etc. Donc, quoi dire de ces cas hybrides? Dans les cas de la photographie, j'ai trouvé une définition que la photographie est un objet autographique, que c'est un système autographique à objets multiples. C'est-à-dire, il y a une autographie dans la prise de vue qui relève de l'autographie, mais bien sûr, l'idée est qu'on puisse reproduire, comme dans les différentes exécutions, nous ramène vers, non pas vers l'allographie vraiment, mais vers la multiplicité d'objets qui reste liée à une première matrice, disons, mais qui n'est pas une matrice qui permet de vérifier ou de mesurer la correctness. Je ne sais pas comment est-ce qu'on dit en français correct, parce que je l'ai toujours lu en anglais, Nelson Goodman. La justesse. La justesse. Autographique à objets multiples. Parce que les objets multiples sont normalement du côté de l'allographique et les objets uniques. Oui, parce que bien ou mal, il y a un corps qui prend un. Les résultats de cette corporalité, c'est un négatif qui est une œuvre unique. Et justement, dans toutes les théorisations de la photographie et les images Kodak et les daguerreotypes sont considérées appartenant au même statut que la peinture, parce que ce sont des cas uniques qu'on ne peut pas développer, qu'on ne peut pas attirer. Et puis, il y a tous les problèmes de comment authentifier des tirages. Il y a des photographes qui signent vraiment pour dire ça c'est une œuvre unique. On peut signer aussi avec des impressions différentes, ouais. Il y a manière aussi d'autographier un seul tirage comme une œuvre vraiment indépendante par rapport à une première calibration de l'impression. Parce qu'effectivement, on dit souvent dans les théories de la photographie, on dit souvent que les premières impressions sont celles qui sont fidèles, disons, au vouloir d'impression du photographe, tandis qu'il y a d'autres générations de tirages qui sont moins fidèles parce qu'on n'a plus le même papier, etc., etc. Mais je pense qu'on a débordé beaucoup, hein, parce qu'on avait dit 3h30.
Les gens voulaient débattre avec toi.
Merci.